VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi 19 mars 2018. Une nouvelle semaine qui commence pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. En votre compagnie, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
Des titres que nous allons développer, Anne.
Au Burundi, le référendum constitutionnel controversé fixé au 17 mai.
Au moins 12 morts dans un accident de la route dans le Katanga en RDC.
Et en RDC, où les catholiques interpellent le patron de l'ONU sur le processus électoral, alors que des projets d'alliance entre opposants ne font pas l'unanimité.
L'IDPS a sa vision, l'INC a sa vision et l'MLC a une vision. Vous allez mettre tout ce monde-là ensemble pour vous donner quoi? Absolument rien. Les Congolais ne doivent pas rêver.
Ailleurs dans le monde, en Russie, fort d'un raz-de-marée dans les urnes, Vladimir Poutine garde les clés du Kremlin jusqu'en 2024.
Et ne ratez pas dans 8 minutes vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sportive.
Au Burundi, la date du référendum sur une réforme constitutionnelle est connue. Le président Pierre Nkurunziza l'a fixé au 17 mai. L'issue de ce référendum, qui fait déjà polémique, pourrait permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Les détails avec Bagasikoura.
Les autorités burundaises avaient précédemment annoncé que le référendum aurait lieu en mai, mais n'avaient pas fixé de date. Le décret de dimanche précise que la réforme sera adoptée si la proportion des votes favorables est de 50% plus une voix, une disposition critiquée par l'opposition et certains observateurs. Ces derniers notent que la Constitution prévoit que toute révision de cette dernière doit être approuvée à la majorité des 4/5 des membres qui composent l'Assemblée nationale et des 2/3 des membres du Sénat. Le décret de dimanche ajoute par ailleurs que les partis ou individus souhaitant participer à la campagne pour ou contre cette réforme doivent s'inscrire auprès de la CENI, la commission électorale, entre le 23 mars et le 6 avril. Toute l'opposition burundaise est contre une révision constitutionnelle qui, selon elle, va signer la mort de l'accord de paix conclu en 2000 à Arusha, en Tanzanie, lequel accord avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile de 1993 à 2006, ayant fait plus de 300 000 morts. L'annonce en avril 2015 de la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat avait plongé le Burundi dans une crise politique qui a fait depuis au moins 1 200 morts et plus de 400 000 déplacés, sur laquelle la Cour pénale internationale a ouvert une enquête.
En République démocratique du Congo, le collectif catholique à l'origine des marches contre le président Joseph Kabila appelle le secrétaire général de l'ONU à renforcer le rôle des Nations Unies dans l'organisation des élections prévues le 23 décembre prochain. Dans une lettre à Antonio Guterres, le comité laïque de coordination proche de l'épiscopat demande plus de moyens à la MONUSCO, la mission onusienne pour la protection des civils pendant la période préélectorale et postélectorale. Le mandat de la MONUSCO doit être renouvelé le 27 mars. Par une nouvelle résolution du Conseil de sécurité, le CLC propose à M. Guterres de faire du 30 avril la date ultime pour la mise en œuvre par le régime Kabila des mesures de décrispation politique, libération des prisonniers politiques et annulation des poursuites judiciaires contre les opposants et ou exilés politiques. Nous reviendrons sur la RDC en deuxième partie de cette édition.
Toujours en RDC, un accident de la circulation s'est produit hier à Fungurume, sur la route de Kolwezi à 175 km de Lubumbashi. Un bilan fait état d'au moins 12 passagers tués. De Lubumbashi, le compte-rendu de notre correspondant Narval Mabila.
Le bus de la compagnie Transport Radco transportait les passagers en provenance de Kolwezi dans la province du Lualaba avec comme destination finale Lubumbashi et devait parcourir 300 km de route. C'est à peine sorti de l'arrêt de Fungurume que les bus a fait plusieurs tonneaux au niveau du village Nguba situé à 12 km de Fungurume. Selon les témoignages recueillis, c'était malentendu entre le chauffeur et les passagers dû à l'excès de vitesse qui serait la cause de l'accident. Les secours se sont organisés avec le moyen bord de la population. Le bilan provisoire et de 12 morts sur 45 passagers et plusieurs blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital de Fungurume. Le chauffeur est porté disparu. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Également dans l'actualité africaine, N'Djamena accueille aujourd'hui un forum national sur des réformes institutionnelles au Tchad, dont une modification de la durée du mandat présidentiel, la création d'un Sénat ou la refonte des régions. Nous retrouvons John Lyndon.
Le forum va regrouper près de 700 participants, dont des partis politiques de la majorité présidentielle, des personnalités, des membres de la société civile proche du pouvoir et des représentants de la diaspora. D'après le rapport du comité technique, le projet prévoit plusieurs amendements à la constitution tchadienne qui date de 1996. Selon le nouveau texte, le président de la République sera élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel direct et il ne sera rééligible qu'une seule fois. Aujourd'hui, le président est élu pour 5 ans et n'a pas de limite de mandat. L'actuel président tchadien Idriss Déby Itno en est à son 5e mandat depuis son arrivée au pouvoir en 1990. Le pouvoir législatif devrait être renforcé par la création d'un Sénat. Selon le document, le nombre des députés serait fixé à 130 membres contre 188 actuellement et celui des sénateurs à 48. Le mandat des députés et des sénateurs sera désormais de 6 ans renouvelable. L'actuel mandat des députés est de 4 ans. Le projet prévoit également la suppression de plusieurs grandes institutions comme la médiature, le Conseil économique et social et le Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. Enfin, les régions, actuellement au nombre de 23, seront transformées en 14 provinces.
Une forte tempête tropicale nommée Eliakim a fait au moins 17 morts et 15 000 sinistrés à Madagascar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Russie, Vladimir Poutine a été réélu hier pour un 4e mandat, fort d'un score aux allures de raz-de-marée, toutefois marqué par les accusations de fraude de l'opposition. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Après dépouillement de 90% des bulletins, le président russe a obtenu 76,4% des suffrages, bien plus que les 63,6% obtenus en 2012 et tous les sondages de ces dernières semaines selon la commission électorale. M. Poutine devance le candidat du Parti communiste, Pavel Grudinin, qui ne récolterait que 12% des voix, devant l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, autour de 6%, et la journaliste proche de l'opposition libérale, Ksenia Sobchak, 5%. Vladimir Poutine est conforté à l'issue de ce scrutin comme l'homme incontournable de son pays qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix d'un climat de guerre froide. L'opposant le plus acharné du pouvoir, Alexei Navalny, interdit de participation et qui avait appelé au boycott, a accusé les autorités d'avoir gonflé le taux de participation grâce à de nombreuses fraudes, en bourrant les urnes ou en organisant le transport massif d'électeurs vers les bureaux de vote. Même constat de l'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections, qui fait état de plus de 2700 irrégularités, dont des entraves au travail des observateurs.
Ajoutons que le président chinois a félicité aujourd'hui son homologue Vladimir Poutine pour sa réélection. Xi Jinping salue ce qu'il appelle une relation sino-russe à son zénith et exemplaire pour les relations internationales.
L'armée turque s'est emparée de la ville syrienne d'Afrin, y délogeant une milice kurde, tandis que pour la première fois depuis des années, le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu dans la Ghouta, signe des succès enregistrés par son armée, appuyée par les forces russes. Les Kurdes de Syrie ont réagi en promettant de se battre pour la libération de toute la région d'Afrin dans le nord-ouest de la Syrie, cible depuis le 20 janvier d'une offensive d'Ankara et de ses supplétifs syriens qui avaient pour but d'en déloger les unités de protection du peuple, les YPG. Cette milice, considérée par Ankara comme une menace à sa frontière, a été l'alliée de Washington dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique.
Mayotte, pour terminer, près de 70% des Mahorais se sont abstenus hier à l'élection législative partielle, selon des résultats provisoires, dans un contexte de forte crise sociale qui paralyse l'archipel français dans l'océan Indien. La députée sortante Ramlati Ali, sans étiquette, et le candidat du parti de la droite, les Républicains, Elad Chakrina, se sont qualifiés pour le second tour qui aura lieu dimanche prochain. M. Chakrina a obtenu le soutien inédit de la présidente du Front National, Marine Le Pen. Pour sa part, le ministre comorien des Affaires étrangères, Mohamed Serelamine, a rejeté la responsabilité de l'insécurité à Mayotte sur les autorités françaises qui conduisent, d'après lui, des expulsions illégales manu militari. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Un tour d'horizon des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le FINUAP estime que l'Afrique subsaharienne réalisera un dividende démographique de 500 milliards de dollars par an sur une période de 30 ans. Pour y arriver, les gouvernements doivent investir dans la santé et l'éducation, améliorer la gouvernance, mettre en place les infrastructures nécessaires, favoriser la création d'entreprises et rendre l'agriculture plus attrayante. Le boom démographique africain favorisera aussi la croissance des classes moyennes. En Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs s'inquiètent d'une possible hausse du prix de l'électricité. En 2016, le gouvernement a augmenté les tarifs de l'électricité pour réduire ses subventions de 60 à 80 milliards de francs CFA par an. Ces augmentations avaient provoqué de violentes manifestations dans plusieurs villes du pays. Les autorités projettent d'investir près de 16 milliards d'euros dans le secteur d'ici 2030 et doubler la production actuelle de 2000 MW d'ici 2020. Au Nigeria, l'opérateur Shell a enregistré 1010 fuites sur ses infrastructures entre janvier 2011 et décembre 2017 et représente une perte de 110 535 barils. Eni, de son côté, a recensé 820 fuites équivalent de 26,286 barils depuis 2014. Les sociétés pétrolières accusent des personnes tierces d'être responsables de sabotage des infrastructures.
Et maintenant, toute l'actualité sportive du week-end. Comme chaque lundi, nous accueillons Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jacques et bonjour à tous.
Football avec la Coupe d'Afrique des clubs et on commence par la Ligue des Champions avec la contre-performance des clubs ivoiriens.
Pas de phase de groupe pour la SEC et Williamsville. Après leur victoire 1-0 en Zambie à l'aller, les Mimos ont tout gâché en s'inclinant 2-1 à domicile face à Zesco United, tout comme Williamsville qui a été sorti par le tenant du titre, le Wydad de Casablanca. Élimination également pour l'SV Club de Kinshasa. Le club congolais a été tenu en échec au retour à Kinshasa par le Difa El Jadida, 2-2 après avoir perdu 1-0 à l'aller. C'est fini également pour Al Hilal, surpris par la Estogopo qui rejoint les poules. Battu 2-0 au Togo à l'aller, les Soudanais se sont imposés 3-1 à domicile, mais ils prennent la porte au nombre de buts marqués à l'extérieur.
Pour ces 16e de finale retour, quelques favoris se sont fait peur.
Le cas du TP Mazembe qui a eu chaud au Mozambique. Les Congolais ont été battus 3-0 par Songo, mais sont qualifiés grâce à leur victoire 4-0 à l'aller. Petite frayeur pour l'étoile du Sahel. Vainqueur 4-2 à l'aller, les Tunisiens ont souffert face aux Nigériens de Plateau United qui ont gagné 1-0 le match retour. La Tunisie aura deux représentants en phase du groupe. L'Espérance a également obtenu difficilement sa qualification aux dépens des Kenyans de Komaya, tout comme les deux clubs algériens, l'Entente du Sétif et le MC Alger. Ça passe également pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Guinéens de Oroya.
Al Ahly a aussi rejoint la phase de groupe.
Effectivement, l'âge vainqueur 4-0 à l'aller. Le géant Kirote s'est encore imposé 3-1 au Gabon face à CF Mounana. Qualification également des Ougandais de Kampala City. Victorieux 1-0 des Éthiopiens de Saint-Georges, 0-0 à l'aller. Ça passe pour Mabane Swallows de Swaziland, deux fois vainqueur des Zambiens de Zanaco, tout comme les Botswanais de Tongchin Rollers qui ont écarté les Tanzanais de Young Africans. Et puis, les Angolais de Primero do Agosto ont sorti au tir au but les Sud-Africains de Bidvest.
16e de finale retour également en Coupe de la CAF et là encore, des surprises sont à signaler.
Oui, une grosse surprise avec l'élimination du Zamalek au tir au but face au modeste Éthiopien de Roulaïta Tisha. Et comme le Zamalek, le club africain de Tunis a été éliminé de cette compétition en subissant une deuxième défaite face aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane 1-0, cette fois-ci à Rades. La formation clubiste battue au match allé par les Marocains 3-1 n'est pas parvenue à remonter son handicap de 2-2. En revanche, l'aventure continue pour l'USM Alger, Cara de Brazzaville ou encore Enima. Tous ces clubs accèdent au barrage de la compétition où se retrouvent également des gros morceaux reversés de la Ligue des Champions. Rendez-vous le 21 mars prochain pour le tirage au sort.
Football toujours, Mondial 2026, le Maroc a déposé son dossier.
C'est lors d'une conférence de presse à Casablanca que les éléments du dossier de la candidature Maroc 2026 déposé à Zurich ont été dévoilés. Le Royaume chérifien accueillera les experts de la FIFA pour la visite d'inspection officielle qui aura lieu du 17 au 19 avril prochain.
En attendant, l'arbitrage vidéo va être utilisé cette année.
Effectivement, la Fédération internationale de football a validé le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage lors de la Coupe du Monde qui aura lieu cet été en Russie. Une annonce de son président Gianni Infantino dans un communiqué. On finit avec la NBA, le championnat nord-américain de basketball et les résultats de la nuit avec vous, Jacques.
Le Thunder d'Oklahoma City a vaincu les Raptors de Toronto au compte 232-125. Ailleurs, Boston 89, la Nouvelle-Orléans 108 et Houston 129, Minnesota 120.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre segment magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Comme promis, retour en République démocratique du Congo pour parler des élections prévues le 23 décembre prochain. Les partis d'opposition commencent à s'organiser et tentent de mettre en place une plateforme commune. Toutefois, des divergences de vues ont déjà fait surface entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound, deux cadres de l'UDPS, autour d'une éventuelle alliance avec le MLC et l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe. À 9 mois de la date du scrutin fixé par la Commission électorale nationale indépendante, l'opposition risque, comme en 2011, d'y aller donc en ordre dispersé. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le Mouvement de libération du Congo, MLC, et le Front pour le respect de la Constitution, ainsi que l'Union pour la nation congolaise, se sont rencontrés en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs.
Cette annonce de Mme Eve Bazaïba, secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, avait jeté les bases le jeudi dernier d'un front commun des trois grands partis d'opposition en vue des élections du 23 décembre courant. Au terme d'une réunion entre Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Eve Bazaïba, un accord de principe était couché sur un communiqué annonçant une mutualisation des efforts, je cite, « pour gagner ensemble le combat de l'alternance lors des prochaines élections », fin de citation. Mais c'était sans compter sur la réaction musclée le soir même de Jean-Marc Kabound Kabound, le secrétaire général de l'UDPS, qui a aussitôt rejeté cet accord. Son problème, c'est Vital Kamerhe.
Vital Kamerhe est parmi les gens qui ont dévoyé l'accord d'Assas-Sylvestre. En signant avec l'MLC l'arrangement particulier au Palais du Peuple, Vital Kamerhe avait craché sur nous tous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rassure que Vital Kamerhe et l'MLC sont réellement sincères pour que nous puissions engager l'UDPS dans une telle démarche? À lui-même, Félix, je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord parce que, personnellement, je n'étais informé ni de loin ni de près de tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai rejeté tout. Et c'est même la position de l'ensemble de notre base.
Le camp Kamerhe a réagi à cette virulente attaque, appelant Kabound à plus de réalisme. Mais ce dernier, qui dit être le seul à engager l'UDPS en tant que secrétaire général, est resté ferme sur sa position. Il dit attendre des garanties avant de lancer le parti de feu Étienne Tshisekedi dans une quelconque alliance. Dans la rue, les Kinois sont également divisés sur la question d'une alliance ou non en vue des élections.
Ça, c'est un échec. Ça, c'est noyer le Congo. Parce que l'UDPS a sa vision, l'INC a sa vision et l'MLC a une vision. L'UDPS, il prend quoi? La tolérance. Tandis que l'INC, ils étaient dans la majorité, les gens qui ont géré ces pays, ils n'ont pas pensé à la population. Et tandis que les MLC, ça c'est un parti qui est venu avec des armes, vous allez mettre tout ce monde-là ensemble pour vous donner quoi? Absolument rien. Les Congolais ne doivent pas rêver.
C'est une bonne chose, hein. Si ils se mettent ensemble, parce que comme disent nos ancêtres, un seul doigt n'arrive pas à nettoyer la figure. Ensemble, ils peuvent effectuer de bonnes choses. Maintenant, reste à vérifier qu'est-ce qui est caché derrière cette alliance.
Je ne crois pas que ça soit une bonne chose parce que l'opposition nous a déjà démontré à maintes reprises qu'ils ne peuvent pas partir ensemble. Surtout que la philosophie des trois partis de l'opposition ne sont pas les mêmes. L'UNC nous a prouvé cela en 2011. L'UDPS nous les avait prouvé en 2006 en refusant de participer aux élections. Le MLC, c'est pratiquement un parti politique qui aujourd'hui présente des couacs, surtout avec le président qui est toujours emprisonné. On pense que c'est mieux que chaque parti puisse partir avec son courant électoral.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les élections sénatoriales sont prévues pour samedi prochain, un scrutin sans suspense en raison du boycott de la plupart des partis de l'opposition qui continuent d'exiger la réforme de la commission électorale. L'opposition menace même de descendre dans la rue pour se faire entendre. Un avant-goût de ces élections avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Sans une nouvelle commission électorale, l'opposition ivoirienne n'entend pas participer au sénatorial du 24 mars ni aux municipales et régionales prévues dans les mois qui viennent. Ce week-end, lors d'un rassemblement qui a réuni près d'un millier de personnes dans la commune de Yopougon, l'opposition regroupée au sein de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS a une nouvelle fois réitéré ses exigences. Georges Armand Wounier, président de cette coalition.
Oui, tous les acteurs politiques impérativement doivent se réunir autour d'un consensus. Un consensus pour toutes les questions électorales. Un consensus pour élaborer une nouvelle commission électorale indépendante. La Cour africaine des droits des peuples et des hommes a demandé que toutes les élections se passent dans un cadre consensuel.
Et pour se faire entendre, l'opposition ivoirienne a décidé de battre le pavé jeudi prochain. Pour la présidente de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, le gouvernement gagnerait à renouer le dialogue avec l'opposition sur toutes les questions majeures qui divisent la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011. Daniel Boniclaveri.
J'ai lancé un appel au pouvoir pour lui dire qu'il fallait qu'il y ait un nouveau dialogue, je dis bien un nouveau dialogue avec l'opposition, un dialogue inclusif, parce que dès qu'on aborde des périodes électorales, nous savons que c'est souvent source de tensions, de turbulences et même de troubles, hein, on connaît d'affrontements. Donc il faut que nous puissions nous mettre ensemble si nous tous nous disons que nous aimons ce pays. Alors mettons-nous ensemble pour essayer de trouver des solutions consensuelles.
Pour ces sénatoriales du 24 mars, les 66 candidats de la coalition au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, auront face à eux 48 candidats indépendants. Le Sénat comptera 99 membres, 66 seront élus par un collège de grands électeurs composé des députés, maires, conseillers régionaux et municipaux, tandis que le tiers restant sera nommé par le président de la République. Le Sénat, une institution prévue par la Constitution de la Troisième République, adoptée lors du référendum de 2016. Une institution qui ne fait pas cependant l'unanimité dans le pays. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Cap maintenant sur le Burkina Faso où l'administration de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou est confrontée à une crise avec l'ANEB, c'est la principale association d'étudiants du pays. L'exclusion d'un étudiant par le conseil de discipline de l'université est jugée excessive par la puissante organisation estudiantine qui exige aujourd'hui le respect d'une décision de justice annulant celle du conseil de discipline sous peine de durcir sa position. De Ouagadougou, le point avec notre correspondant Issa Napo.
La tension entre les deux camps est montée d'un cran cette semaine avec la sortie médiatique de l'Association nationale des étudiants du Burkina pour exiger le respect d'une décision de justice suspendant les conclusions du conseil de discipline de l'université. C'est l'avis du président de l'ANEB pour qui les autorités universitaires se doivent de respecter les décisions judiciaires du pays, s'insurge Alexis Zapré.
Depuis que la sanction a été prise contre notre camarade Tahaïdou, l'affaire a évolué au-delà des actions que nous avons posées en justice et que la justice a l'une décision de suspendre la décision du conseil de discipline pour permettre à notre camarade de poursuivre normalement ses activités. Mais entre-temps, la présidente de l'université a fait appel à la décision qui a été rejetée par le conseil d'État. Malgré ces deux décisions favorables à notre camarade, les autorités universitaires refusent à ce que notre camarade puisse reprendre normalement ses activités académiques de droit. Surtout quand on est dans un état de droit, ça ne devrait pas souffrir de difficultés qu'on puisse appliquer cela. Mais à notre niveau, on compte pour que cette décision-là puisse s'appliquer.
Au sein de l'université, les rencontres et médiations se succèdent afin de résoudre ce problème né il y a tout juste un an. Une violente altercation sur le campus avait vu le mise en cause blesser sérieusement un camarade qui défendait le droit de ne pas suivre un mot d'ordre de grève de cette association alors qu'ils étaient en pleine session d'évaluation. La décision judiciaire peut avoir plusieurs interprétations, estime le président de l'université de Ouagadougou, le professeur Rabiou Cissé.
Il y a eu deux requêtes. L'étudiant a déposé une demande de suspension de l'application de la décision du conseil de discipline de l'université Ouagadougou. Et il a fait une demande aussi d'annulation de la sanction. Après cette première étape, dit que la justice lui a donné raison, chacun peut l'analyser comme il l'entend, mais à l'issue du tribunal administratif et du conseil d'État, la justice a demandé à l'université Ouagadougou de suspendre l'application de la décision du conseil de discipline.
Sous-entendu, la sanction reste encore pendante, alors que sur le campus, la plupart des étudiants rencontrés, à l'image de Flavien et Oumar, penchent pour un pardon envers l'étudiant.
Vu les faits, pour moi, l'étudiant en doit le pardonner. Les 2 ans là, en tout cas, c'est un peu exagéré. Ça serait vraiment cruel de sanctionner pour un truc comme ça, puisque c'est des trucs fréquents à l'université même.
Ce que nous attendons seulement, c'est que les autorités universitaires appliquent la décision donc de justice en permettant à l'étudiant Bahin de pouvoir s'inscrire et puis poursuivre normalement ses activités universitaires.
Aux premières semaines suivant la sanction, la réintégration de l'élève incriminé avait été conditionnée à une réconciliation avec son camarade agressé et une demande formelle de pardon aux autorités universitaires. Après l'épisode judiciaire et l'acceptation des conditions de l'université posées à la NEB, avant une éventuelle annulation de la décision disciplinaire, une sortie de crise semble se profiler à l'horizon. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Direction Burundi à présent, dans la province de Bubanza, dans le nord-ouest du pays. L'épidémie de sida était en net recul depuis 2013. La situation a toutefois pris une mauvaise tournure depuis quelque temps. En fait, de nombreux malades ne prennent plus les médicaments appropriés, dont beaucoup de femmes séropositives, également confrontées à la famine. Certaines femmes séropositives ont même renoué avec la prostitution pour subvenir à leurs besoins. En 2016, quelques 84 000 personnes vivaient avec le VIH au Burundi, dont 61% sous antirétroviraux. De Bujumbura, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Christophe Kurunziza.
Marie Irakoze est séropositive. À 25 ans, cette femme a perdu son enfant séropositif l'année dernière. Son mari est aujourd'hui en prison. Alors qu'elle prenait des médicaments depuis 7 ans, elle a arrêté de les prendre. Pour lier les deux bouts de la journée, elle affirme qu'elle a été obligée de reprendre la prostitution pour avoir de quoi manger et payer le loyer de sa maison. Irakoze raconte son calvaire à VOA Afrique.
Mon mari vient de passer 2 ans en prison. Je n'ai rien à manger et je n'ai pas ma propre maison. Je m'en donne alors à vendre mon corps moyennant argent. Je n'ai même pas de champ pour cultiver. Personne ne me vient en aide pour la nourriture et pour payer mon loyer.
Même si cette dame est séropositive, il arrive à ses clients de refuser de se protéger, augmentant ainsi le risque de transmission.
Il arrive que je couche avec des hommes qui ne veulent pas se protéger. Ainsi, cet homme peut transmettre le sida à une autre femme. Et ça devient un cercle vicieux. Ça arrive qu'un client me certifie que vous n'êtes pas malade, alors je lui ai dit que je suis séropositif.
La question de savoir pourquoi elle ne prend plus les médicaments, Marie Irakoze s'explique.
Comment prendre les médicaments alors que je n'ai rien à manger? Ça fait 5 mois que je ne prends pas de médicaments parce que je peux passer même 2 jours sans manger. Mais quand j'ai un client, je peux avoir 3, 4, 5 000 francs burundais et avoir ainsi ma ration quotidienne.
Cette autre femme de la même circonscription affirme qu'elle va bientôt abandonner les médicaments à cause de la faim.
Si on prend les médicaments et que l'on a le vertige et que tu as mal, tu fais quoi? Tu choisis d'abandonner de prendre les médicaments car ta faim est déjà proche.
Des témoignages qui montrent que si les malades ne reçoivent plus de nourriture, leur nombre peut augmenter, comme l'affirme Kassilde Atungimana, responsable du réseau burundais des personnes vivant avec le VIH-SIDA en province de Bubanza.
On sillonnait toutes les collines de la province avant pour expliquer le bien fondé des médicaments. Pour avoir les chiffres actualisés, aujourd'hui c'est impossible car on ne peut pas aller sur les collines à pied car nous n'avons plus de financement.
Le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le SIDA, Dr Désiré Ndouimana, indique que d'ici 2030, l'objectif de vivre sans aucun malade de sida au Burundi sera atteint.
Il y a l'objectif 90-90-90 qui arrive jusqu'en 2020. Cet objectif vise à ce que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique et 90% qui ont été dépistés positifs soient mises sous traitement. Et parmi eux, 90% des personnes qui sont sous traitement et une charge virale indétectable.
Depuis 2010, au Burundi, de nouvelles infections du VIH ont diminué de 54%, tandis que le nombre de personnes mortes de sida a diminué de 49%. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albotson a dirigé la mise en onde. Anne qui était également avec nous pour la présentation du journal. C'était Daryl Smith à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine sur VOA Afrique.